Comment savoir si vous êtes chrétien, si vous êtes sauvé, si vous êtes un vrai disciple de Jésus? Comment savoir si vous appartenez à Dieu alors qu'il ne vous a jamais envoyé un certificat tangible signé de sa main ou un diplôme avec son tampon dessus? Comment vérifier que Dieu demeure avec vous et que vous allez le voir face à face un jour au ciel? Vous avez prié une prière de confession et de repentance. Vous avez invité le Seigneur à régner dans votre cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Il n'y avait pas eu des éclairs dans le ciel. Vous n'avez pas entendu la voix de Dieu. Peut-être que vous n'avez rien remarqué. Votre union avec Christ est-elle une réalité? Notre texte aujourd'hui répond à ces préoccupations. Jean chapitre 15, versets 1 à 16 nous parle de la doctrine de l'union avec Christ, ou comment nous sommes liés à Christ par le salut. À travers l'analogie de la viticulture, nous allons apprendre comment savoir si nous sommes des sarments en bonne santé et bien attachés au cep, ou si nous sommes des sarments tout secs qui ne servent qu'à être jetés au feu. Lisons alors Jean chapitre 15, versets 1 à 16. Jean 15, versets 1 à 16. Jésus dit: Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments et les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vous invite à la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour chaque mot contenu dans ta parole, chaque mot qui nous exhorte et qui nous instruit dans la vérité. Que notre étude de ce texte t'apporte tout l'honneur et toute la gloire qui t'appartiennent, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. J'ai quatre points à soulever aujourd'hui. Et pour commencer, regardons le verset 1. On va commencer par le verset 1 dans ce texte. Deux personnages importants apparaissent dans le récit. Dieu, le vigneron, et Jésus, le cep. Dieu, le vigneron, et Jésus, le cep. Le fait que Dieu le Père soit mentionné en tant que vigneron n'est pas du tout étonnant dans ce texte ou dans la Bible. L'Ancien Testament est plein d'exemples comme ça où Dieu est présenté comme étant le vigneron qui s'occupe de son peuple, le cep. Dans l'Ancien Testament, c'est Israël qui est le cep. Mais malheureusement, chaque fois que la nation d'Israël est comparée à un cep dans l'Ancien Testament, le texte ajoute des reproches contre elle à cause de son manque de fruits. La nation d'Israël est censée être le cep. Et dans notre texte, on est surpris parce que maintenant, Jésus nous dit non seulement qu'il est le cep, mais qu'il est le vrai cep, qui remplace Israël au niveau de son importance. Vous voyez, le peuple d'Israël, à l'image de n'importe quel autre peuple dans l'histoire du monde, n'est pas qualifié pour être considéré comme un bon cep. Le peuple de Dieu, malgré son statut élevé et privilégié, ne porte pas le bon fruit. Et pourquoi est-ce le cas? Parce qu'Israël était censé être une lumière pour les nations. Mais au lieu d'accomplir sa mission, le peuple s'est tourné vers l'immoralité et vers l'idolâtrie. Comme les gens aujourd'hui, comme nous aujourd'hui, Israël a rejeté la grâce de Dieu en essayant de plaire à Dieu par ses propres efforts. Mais en réalité, Jésus est le cep que la nation d'Israël n'aurait jamais pu être. Bien que le salut soit entré dans le monde à travers la nation d'Israël, le peuple d'Israël lui-même n'était ni la source ni le moyen du salut. C'est Jésus qui remplit ce rôle. C'est lui le vrai cep. Et le vrai cep, le bon cep, produira les bons résultats. Peut-être que vous savez déjà comment l'industrie du vin aux États-Unis a débuté. Il y a 5 siècles, les Européens sont arrivés en Amérique du Nord. Assez rapidement, ils ont commencé à chercher quelque chose d'autre à boire que de l'eau. Et qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont trouvé pour étancher leur soif? Et non, Jonathan, ce n'était pas du coca. Ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Un type de vigne sauvage avec plein de fruits. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils ont fait du vin. Mais quand le moment est arrivé de goûter le cru, qu'est-ce que vous imaginez? C'était horrible. C'était épouvantable. C'était absolument effroyable. Le vin sentait la boue et les animaux. En fait, dans un livre d'histoire, j'ai lu qu'après avoir goûté ce vin sauvage, un colon a dit que c'était comme boire un renard. C'était comme boire un renard. C'était dégoûtant. Et ça, c'est le début de l'industrie du vin aux États-Unis. Sans le bon cep, on n'a pas les bons sarments. Et sans les bons sarments, on ne récolte pas le bon fruit. Et Jésus est le bon cep. Il est le vrai cep. À la base, votre relation avec Dieu dépend du cep. L'assurance de votre salut et votre union avec Christ sont basées sur Christ lui-même et sur son œuvre. Les sarments en bonne santé dépendent du vrai cep. Les vrais chrétiens sont ceux qui confessent Jésus comme Seigneur. Mais il y a autre chose aussi. Deuxième point. Vous pouvez être sûr que vous êtes unis avec Christ si Christ vous émonde. Le verset 3 nous dit que les disciples de Jésus sont déjà émondés à cause de la parole. Et cet élagage, si j'ose dire, n'est pas toujours agréable. La parole de Dieu n'est pas toujours douce. Par sa parole, Dieu nous fait des reproches parfois. il nous reprend parfois. Hébreux chapitre 12 nous dit que le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verges tout fils qu'il agrée. La parole de Dieu nous révèle nos péchés. Elle met en lumière les vilains secrets qui sont tapis dans les ténèbres de notre cœur. Si nous sommes unis avec Christ, sa parole nous émande. Ça fait un peu mal, mais c'est nécessaire. On a une expression aux États-Unis qui dit « no pain, no gain ». No pain, no gain. Ou en français, je ne sais pas, mais quelque chose comme « zut alors, ça fait mal, mais c'est pas grave parce que si je continue à ce rythme, je vais être au top bientôt. » No pain, no gain. Pour ceux qui font du sport, vous savez comment ça marche. De longues heures d'effort, de la patience, de la douleur, des courbatures, de la discipline, l'entraîneur qui vous crie en plein visage. Jour après jour, ça fait mal. Mais si vous devenez champion olympique de ski, ou si vous remportez le marathon, ou si vous gagnez le Tour de France, ou si vous devenez un maître de la PlayStation, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, n'est-ce pas? No pain, no gain. Si Dieu ne nous émonde pas, nous ne grandirons pas dans la foi. Le texte nous dit que Dieu nous émonde et qu'il continuera de nous émonder. C'est une œuvre perpétuelle dans la vie chrétienne. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que les sarments en bonne santé sont émondés. Cela ne fait pas de doute. La preuve de votre union avec Christ se trouve dans le fait qu'il vous transforme par le moyen de sa parole. Notre union avec Christ est donc premièrement basée sur l'œuvre de Christ et deuxièmement confirmée par l'œuvre de sa parole qui nous transforme au fur et à mesure de la vie chrétienne. Jusqu'à maintenant, notre texte a été facile à comprendre. Jésus parle de façon métaphorique pour dire qu'il est la source de notre salut et qu'il nous forme dans la foi. Ok. Mais les versets 4 à 15 exigent un peu plus d'attention. Vous allez remarquer que le verbe « demeurer » apparaît à plusieurs reprises dans ce texte et présente quelques difficultés. Le problème, le voici. Le texte dit que Jésus retranche les mauvais sarments qui sont sur le cep. Mais comment les mauvais sarments peuvent-ils être en Christ au départ? C'est une excellente question. Dans la forêt, on trouve parfois des vignes parasites, c'est-à-dire des plantes ou des vignes qui s'attachent aux troncs des arbres et qui poussent à côté des vraies branches et qui portent des feuilles. Ces parasites ressemblent à l'arbre sur lequel ils poussent. Mais si on regarde de plus près, on peut voir que ce sont en fait des plantes différentes qui poussent. Dans la doctrine de l'Église, on parle de l'Église visible et de l'Église invisible. L'Église invisible comprend tous les vrais croyants de toute histoire. Okay, ça c'est l'Église invisible, tous les croyants de toute histoire. Mais l'Église visible, c'est celle qu'on voit autour de nous, aujourd'hui par exemple. C'est l'Église visible. Et dans l'Église visible, on ne sait pas toujours qui appartient à Christ et qui appartient au monde. Quand on regarde l'arbre, on ne sait pas toujours quelle branche appartient à l'arbre et quelle branche appartient à la vigne parasite. Mais Dieu connaît les siens. Vous voyez, pendant le ministère de Jésus, l'Église visible, en quelque sorte, c'était ceux qui suivaient Jésus. Mais nous savons que parmi ceux-là, il y avait des branches que Jésus a retranchées. Judas, par exemple, un disciple fidèle, qui a suivi Jésus pendant 3 ans, et qui l'a même aidé dans le ministère, a fini par montrer qu'il était une branche parasite. Il y a une différence donc entre ceux qui sont en Christ et ceux qui semblent être en Christ. Le texte est explicite sur le fait que les vrais sarments demeureront en Christ, le cep. Ils portent du fruit. Si vous êtes chrétien, vous demeurerez en Christ et vous porterez du fruit. Si vous êtes uni avec Christ, vous porterez du fruit. Et qu'est-ce que c'est que ce fruit que nous devons porter? Des pommes, des bananes, des cerises peut-être? Pas vraiment. Mais le vrai fruit mentionné dans ce texte, c'est un fruit que nous devons demander dans la prière. C'est un fruit qui glorifie Dieu. Et c'est un fruit qui est lié à l'amour. Le Père aime le Fils. Le Fils aime ses disciples. Et les disciples sont appelés à s'aimer les uns les autres. Nous sommes appelés à demander tout ce que nous voulons et qui rend gloire à Dieu. Si nous sommes vraiment en Christ, nos prières se conformeront à la volonté de Dieu et chercheront l'amour dont Christ nous a donné l'exemple suprême. Le texte nous dit « Demandez tout ce que vous voulez ». Mais si vous êtes vraiment en Christ, ce que vous voudrez sera lié à la gloire de Dieu. Et ce qui est lié à la gloire de Dieu dans ce texte, c'est l'amour, le plus grand commandement. Les vrais sarments sont identifiés par leurs fruits, c'est-à-dire l'amour qui découle de Christ. Les vrais sarments qui demeurent en Christ aiment Dieu et cherchent sa volonté dans les Écritures. Les vrais sarments qui demeurent en Christ aiment leurs frères et agissent pour construire l'Église, pas pour combattre l'Église. Si nous demeurons dans l'amour de Christ et portons les fruits de l'amour et de l'obéissance, cela confirme notre union avec lui. Est-ce que nous sommes des bons ou des mauvais sarments? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Notre quatrième et dernier point est aussi lié au mot « demeurer » dans ce texte. Ce mot présente une deuxième difficulté. Est-ce que c'est le cep qui tient les sarments ou est-ce que ce sont les sarments qui s'accrochent au cep? Dieu nous choisit-il ou choisissons-nous Dieu? Le mot « si » qui apparaît souvent dans ce texte suggère une condition. « Si vous demeurez en moi », c'est à nous de demeurer en Christ. C'est à nous de porter le fruit. C'est à nous de vivre une vie chrétienne, n'est-ce pas? Oui et non. Une lecture superficielle de ce texte donne l'impression que Jésus n'est pas un bon logicien. D'un côté, il nous dit « C'est moi qui vous donne la capacité de porter du fruit et ainsi vous demeurerez en moi. » Mais de l'autre côté, il nous dit « C'est à vous de porter du fruit, et sinon, je vous retrancherai. » Imaginez qu'en marchant à Lyon, vous voyez une école de langue, avec une affiche qui dit « Venez apprendre le chinois ». C'est super, parce que vous avez toujours voulu apprendre le chinois. Donc, vous entrez dans l'école, et vous demandez un dossier d'inscription. Mais à votre grande surprise, le dossier est écrit en chinois. Que faire? Que faire? Comment allez-vous vous inscrire si on ne vous en donne pas la capacité? Vous expliquez donc à l'administration de l'école que vous ne comprenez pas le chinois et que c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Mais le secrétaire vous répond tout simplement « Désolé et bonne chance ». Est-ce que ça c'est ce que Jésus est en train de dire dans ce texte? Désolé et bonne chance. Est-ce qu'il nous invite afin de nous abandonner? Pas du tout. Pas du tout. Regardez le verset 16 encore, qui dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jésus est en train de dire que notre attachement au cep et notre production de fruits sont inséparables. Et que ces deux choses sont basées complètement et uniquement sur son choix, le choix de Dieu. Mais en même temps, il y a une réponse de notre part et une responsabilité, celle d'obéir à Dieu. Dans un sens, c'est à nous de produire du fruit, de demeurer sur le cep, de chercher la volonté de Dieu et de vivre dans l'amour. Mais toutes ces réponses de notre part qui produisent du fruit sont fondées sur l'appel que Dieu en premier nous a adressé dans sa grâce. Est-ce que vous êtes vraiment unis à Christ? Si Christ, pour sa part, vous a appelé, régénéré, pardonné et justifié en tant que chrétien par son œuvre à la croix, il n'y a pas de doute. Oui, vous êtes unis à lui. Et si vous, de votre part, vous le laissez vous nourrir, si vous le laissez vous émonder par le moyen de sa parole, et si vous le laissez produire en vous les fruits de l'amour, alors il n'y a pas de doute non plus. Le Seigneur confirme en vous votre union avec lui. Courage, mes amis, courage. Nous avons un vigneron souverain et bienveillant qui nous a donné le vrai cep, Jésus-Christ, notre espérance. Je vous invite à la prière. Notre Seigneur Jésus, tu es notre vrai cep, la source de la vie, la source du bon fruit. Et nous te remercions, Seigneur, parce que dans ta souveraineté, tu choisis tes sarments et tu leur donnes la capacité de demeurer en toi. Tu es un Dieu sur lequel nous pouvons compter, car tu prends soin de nous. Merci, Seigneur, pour la croix, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.